Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé. Nous sommes vendredi 19 novembre 2021. Vous êtes bien sur la radio Inzambagate Kakawe. C'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. Deux personnes sont mortes foudroyées dans une pluie torrentielle qui s'est abattue hier sur la commune de Nyabihanga dans la province d'Umnaro. Des champs de culture ont été également dévastés. Et puis, une psychose de peur gagne de plus en plus la population de la commune Bugendana en province Gitega. À l'origine, les entraînements paramilitaires des jeunes Zimbonerakure. Peur panique également dans le camp de réfugiés burundais de Lusenda en RDC. Des intimidations à caractère ethnique y sont constatées. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Deux personnes ont trouvé la mort foudroyée et une autre a été blessée ce jeudi. C'était lors d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la commune Nyabihanga de la province de Mwaro. Les habitants disent être dans une situation difficile suite à cette pluie qui a dévasté leurs champs et demandent une aide d'urgence. Le point avec Parfait Mudasigana.
Toutes les deux victimes de ces pluies sont des élèves. Ils y rentraient de l'école, selon des sources sur place. Il s'agit de Fabrice Niyubawe, âgé de 18 ans, qui fréquentait l'école fondamentale de Wandora. L'autre de juste 8 ans et Justin Sabimana, qui était écolier à l'école fondamentale de Kasambi. Ces établissements scolaires se trouvent en commune Nyabihanga de la province Mwalo. Un blessé a également été signalé sur la colline Murama de la même commune. Selon les sources sur place, ces élèves ont été foudroyés dans une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la commune Nyabihanga dans l'après-midi de ce jeudi. Ils sont morts sur le champ, comme le précisent des habitants de la localité. Les sources indiquent que les collines Munago et Murama ont été les plus touchées par ces pluies mêlées de grêle et de vent violent. Plusieurs hectares de champs ont été détruits par ces pluies. Les habitants ne savent plus à quel sens se vouer, comme celui-ci qui lance ce cri de détresse.
Cette pluie mêlée de grêle et de vent violent a détruit nos champs de haricots, de manioc et beaucoup d'autres cultures ont été touchées. Nous demandons aux âmes charitables de nous venir en aide car c'était notre seule source de survie de tous les jours. C'est également nos cultures qui nous servaient de repas de tous les jours. Ils peuvent nous apporter des semences pour pouvoir semer de nouveau afin de trouver de quoi manger.
La radio Nzamba n'a pas pu trouver par téléphone l'administrateur de la commune Nyabihanga pour savoir ce qui est en train d'être fait pour venir en aide à cette population en difficulté.
Merci, Parfait Mudasigana. C'est une peur panique au sein de la population de la commune de Bugendana dans la province de Gitega. Et pour cause, les entraînements paramilitaires nocturnes des jeunes Zimbonerakure signalés sur toutes les collines de la commune Bugendana. Ces entraînements seraient liés à la semaine dédiée aux combattants. Les détails avec Georges Nimenya.
Selon les informations recueillies par la radio Inzamba, au sein de certains habitants de la commune de Bugendana, ces entraînements paramilitaires, qui sont signalés depuis un certain temps, commencent aux environs de 3h du matin pour se clôturer à 6h du matin. Ces habitants de cette commune, qui souffrent encore des séquelles de la guerre, craignent que si rien n'est fait à l'immédiat, cela peut encore replonger la commune de Bugendana dans une période sombre comme celle qu'ils ont vécue, comme le témoigne cet habitant.
Nous constatons ces derniers temps, aux environs de 3h du matin jusqu'à l'heure, des jeunes Zimbonerakure, des hommes, voire même des femmes, qui font des entraînements paramilitaires en cantonnant des chansons qui suscitent la peur au sein de la population. Ils se vantent comme quoi le secrétaire général du parti CNDD-FDD et le président de la République, Evariste Ndayishimiye, leur ont autorisé de faire ces entraînements nocturnes. Ces entraînements sont aussi organisés au niveau de certains ménages. Nous demandons au président de la République, avec ceux qui l'aident à diriger ce pays, de cesser essaie d'embarquer la jeunesse sur le chemin de la guerre. Au cas contraire, cela nous conduira dans le chaos.
Face à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba a appelé sans succès Bukuru Béatrice, administrateur de la commune de Bugendana. Pour rappel, la semaine dédiée aux combattants au sein du parti CNDD-FDD sera clôturée dans cette même commune du centre du pays ce samedi.
Merci Georges Nimenya. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo vivent également dans une peur panique. Cette peur est liée aux intimidations à caractère ethnique faites par certains de leurs voisins congolais qui disent que les réfugiés tutsis collaboreraient avec des groupes armés qui combattent le pouvoir congolais. Ces réfugiés demandent aux autorités congolaises et au HCR de suivre de près la situation afin d'apaiser les esprits. Les détails avec Trifine Kaniwabo.
Ces réfugiés disent que ces derniers jours, des menaces sont proférées à leur endroit par leurs voisins congolais, les Babembe. Ils accusent certains des réfugiés burundais de l'ethnie Tutsi de collaborer avec des groupes armés qui combattent le pouvoir en République démocratique du Congo. En plus, ils accusent ces réfugiés de nouer des relations avec les Banyamulenge.
Nous sommes angoissés. Nous sommes informés que nous sommes recherchés par les rebelles qui combattent le pouvoir de la RDC pour la simple raison que nous sommes des Tutsi et que nous aurions des relations avec les Banyamulenge. Nous sentons que nous ne sommes pas tranquilles, parce que tous les jours, on nous accuse d'être des Tutsis. On nous accuse de collaborer avec des groupes de Banyamulenge, dont les Makanika. Tout cela relève de la jalousie de nos voisins Babembe, qui nous identifient comme des Tutsis chaque fois qu'ils nous voient.
Certains de ces réfugiés burundais, qui avoisinent actuellement 30 000 personnes, disent qu'ils vivent une insécurité permanente. À part ces menaces à caractère ethnique, leurs vaches ont été volées par des gens non encore identifiés, mais soupçonnés être des Congolais. Ces réfugiés demandent aux autorités congolaises et au HCR de suivre de près la situation afin d'arrêter un tel comportement de nature à diviser. Nous n'avons pas pu joindre le responsable du camp de Lusenda pour qu'il nous dise ce qu'il envisage faire quand un tel climat règne au camp.
L'organisation CPDH Vicar, qui suit de près les droits des réfugiés dans les camps des réfugiés, s'insurge contre ces intimidations. Il demande au gouvernement congolais de suivre de près la question et de mener des enquêtes approfondies. On écoute Léopold Charangabo, vice-président de cette association.
Normalement, les Maïmaï sont des rebelles qui proviennent de l'ethnie Babembe. Ils accusent les réfugiés burundais de collaborer avec les Banyamulenge. Ces Maïmaï sont soutenus par certains policiers et soldats Babembe qui assurent la sécurité dans les camps de réfugiés. Parce que on ne comprend pas comment les camps de réfugiés peuvent être attaqués pendant qu'ils sont sécurisés par les soldats et policiers congolais. Et ces rebelles sont sans toutefois être arrêtés. Et nous déplorons vigoureusement ces attaques et le comportement des agents de service de l'ordre qui n'interviennent pas. Et nous prenons aussi cette occasion pour demander au gouvernement congolais d'assurer la sécurité de tous les réfugiés qui sont sur son sol et de faire une enquête approfondie.
Et puis la famille de Christophe Ndayiragije de la commune Kiganda en province Muramvya demande d'être informée de son lieu de détention. C'est après un mois qu'il a été arrêté. Cette famille craint pour sa sécurité puisqu'elle n'a aucune information depuis le lendemain de son arrestation au commissariat de Muramvya. Plus de détails avec Prosper Ndissamira.
Christophe Ndayiragije a été arrêté le 19 octobre à son domicile à Kiganda en province Muramvya. Il a été appréhendé par l'officier de police judiciaire en commune Kiganda en compagnie du responsable du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et le nommé Gilbert Nizegimana, responsable des Imbonerakure dans cette commune. Depuis cette date, la famille n'a eu d'autres nouvelles de lui, sauf celle de savoir qu'il a passé la nuit au cachot du commissariat provincial de Muramvya. Par après, la famille n'a pas été informée de son lieu de détention et demande de savoir où il est après un mois de son arrestation. Odette Nizigama et sa sœur.
Ça fait aujourd'hui exactement un mois après l'arrestation de Christophe. Depuis son arrestation, nous n'avons pas cessé de demander qu'il nous informe de son lieu de détention. Il est innocent de toutes ces accusations, sauf des conflits fonciers. Je demande à Ladislas, l'officier de police judiciaire qui est venu pour l'appréhender, le commissaire provincial de Mouranza et le responsable des renseignements au niveau provincial qui lui ont auditionné le lendemain de son arrestation, de nous informer de son lieu de détention. Un habitant de Mouranza, ce jour-là, a eu accès au cachot et lui a donné du pain. J'exige de savoir son lieu de détention.
Les proches de sa famille s'inquiètent de sa sécurité et demandent que le sien soit présenté devant les instances de justice une fois qu'il serait encore en vie.
S'il est encore en vie, qu'il soit présenté devant les instances de justice. Je demande au président de la République d'apaiser les larmes des proches de Christophe. Chaque fois que nous ne serons pas informés de son lieu de détention, nous ne cesserons pas de demander à ceux qui lui ont arrêté, ceux qui lui ont auditionné de nous informer. Informé de son lieu de détention. Les accusations qu'il est parmi ceux qui ont mené l'attaque de l'Otigama, celui qui a été présenté par la police, n'a pas cité le nom de Christophe Ndayiragije.
La rédaction de la radio Inzamba Gatega Kawe, nous avons essayé de joindre par téléphone le responsable du service national de renseignement en commune Kiganda, Ladislas Niondiko, ainsi que le commissaire provincial de police à Mouranza, pour de plus amples éclaircissements sur le lieu de détention de Christophe Ndayiragije, mais sans succès.
Inzamba.
La suite de cette édition, le président burundais Evariste Ndayishimiye a procédé ce jeudi à un remaniement ministériel. Deux nouvelles figures entrent au gouvernement alors que trois autres changent de portefeuille ministériel. Le point avec Jean-Marie Ndabashinze.
Madame Leocadie Ndachaïsava, qui prend la tête du ministère de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias, est née dans la commune de Gihanga de la province de Mubanza. Elle a fait ses études à l'Université du Burundi dans la faculté d'économie. Elle était membre de la Commission nationale des tels hauts très bien avant d'être nommée comme membre du gouvernement. Elle est aussi membre du parti au pouvoir, un parti qu'elle aurait intégré très récemment, selon nos sources, au sein de DFDD. Dr Sylvine Zeimana, la désormais ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, est quant à elle d'origine Hutu. Elle est native de la province de Gitega. Elle était responsable du centre Humura, basé à Gitega, un centre qui s'occupe des victimes de la violence faite aux personnes de sexe féminin. Madame Sylvine Zeimana fait partie des femmes membres du CNDD-FDD qui font la pluie et le bon temps dans son parti, regroupé dans une association appelée Femmes Inwari, dirigée par l'épouse du chef de l'État, Angeline Ndayishimiye. Les ministres qui ont changé de portefeuille sont Madame Domine Vanyanhiye, qui occupe désormais le ministère de la Justice. Ses anciennes attributions comme ministre de la fonction publique sont gérées par Tadendi Kumana, qui quitte la santé publique et la lutte contre le sida. Madame Marie Chantal Nijimbere quitte le ministère de la communication et des médias pour s'occuper de celui du commerce et du tourisme. Elle remplace Madame Capitoline Nyonizigiye, qui vient de passer seulement 5 mois à la tête de son ministère, un ministère qui est devenu quasiment problématique.
Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, vient de lever les sanctions prises contre le Burundi le 22 novembre 2015 par son prédécesseur Barack Obama. C'était suite à une situation d'insécurité grandissante qui prévalait à l'époque. Ces sanctions avaient frappé une dizaine de personnalités burundaises de l'armée et de la police, parmi lesquelles le premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Avec ces sanctions, ces personnalités n'étaient plus autorisées à fouler le sol américain et leurs avoirs étaient gelés. Pour Joe Biden, la situation sécuritaire au Burundi s'est améliorée. Dans son compte Twitter, le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est réjoui de cette levée des sanctions par le président américain. Dans le domaine de l'économie, le sous-développement économique du Burundi est la conséquence de son sous-développement politique. C'est ce qu'indique professeur Liberani Mashirakani au moment où se clôturent ce vendredi les travaux du Forum pour le développement du Burundi. Le porte-parole du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire explique que le gouvernement manque une réelle volonté politique pour stabiliser démocratiquement les institutions. Pour lui, la paix, la sécurité, la justice pour tous devraient être en préalable au développement économique. On écoute plutôt professeur Libera Nimashira Kandi.
Premièrement, le développement d'un pays, ce n'est pas la richesse du sous-sol. Ce n'est pas non plus le flux des capitaux qu'on peut mobiliser. Sinon, le Zaïre et le Brésil des années 1970 auraient pu se développer. Ce n'est pas que les infrastructures. Ce n'est pas que l'arsenal de lois, d'expertise qu'on dispose. Le développement, c'est comprendre d'abord que le développement économique d'un pays vient en aval d'un développement politique. Autrement dit, le préalable dans le développement, c'est faut un développement politique. Autrement dit, il faut la paix et la sécurité pour tous les citoyens, il faut une justice équitable, totalement indépendante de l'exécutif, il faut une bonne gouvernance économique, politique et sociale, il faut lutter contre la corruption, etc., etc. Et je soulignerai que le développement politique se traduit par le droit de tous les citoyens. L'exercice des libertés, tant publiques que politiques, et le respect des lois existantes. Donc le développement s'entend en termes, disons, de construction d'un système de valeurs, Ubuntu et Ushingenhae, que toutes les générations, actuelles et à venir, doivent défendre. Troisièmement, le développement, c'est aussi la lutte contre les injustices de tout genre par la priorisation d'un développement des institutions. Donc il faut des institutions fortes. Quatrièmement, le développement d'un État, c'est au-delà des shows. Voilà la raison principale qui explique le sous-développement du Burundi. En peu de mots, c'est le sous-développement politique.
Et dans le secteur de l'éducation, la coalition pour tous Bafashewige appelle le gouvernement burundais à introduire l'éducation numérique dans le système éducatif du Burundi. Au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi, Jean Samandari, président de cette coalition, a indiqué que ce nouveau système pourra diminuer le surnombre dans les classes et résoudre la question du manque d'enseignants.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une réunion virtuelle de haut niveau sur le partenariat Génération sans limite qui avait eu lieu en septembre 2020, avait déclaré que mettre des ressources dans l'apprentissage et la formation numérique des jeunes est un investissement essentiel pour renforcer la cohésion sociale et réduire les inégalités intenables qui bloquent le développement humain et la croissance économique. L'éducation numérique est une solution aux défis liés au manque de manuels scolaires, surtout que l'élève ne sera plus limité au seul manuel scolaire d'une discipline donnée, au surnombre d'élèves avec des classes pléthoriques, vous n'ignorez pas, au manque d'infrastructures comme des salles de classe, des bas pupitres, ainsi de suite. L'éducation numérique, à travers les outils technologiques modernes d'enseignement, favorise un apprentissage individualisé et plus adapté au rythme de chaque élève. Celui-ci a la possibilité de recommencer un grand nombre de fois chaque exercice, de revenir sur une notion mal comprise et n'est plus prisonnier du rythme global de la classe. La coalition Éducation pour tous Bafashewige sollicite donc l'implication de toutes les parties prenantes pour que l'éducation numérique soit introduite à tous les niveaux de l'enseignement au Burundi.
Et puis, nous passons à cet appel du Forum des diasporas burundaises de l'Europe. C'est la sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières et de se faire vacciner contre la COVID-19. Suivez Oscar Boutalé, il est le président du FODIB.
Chères autorités burundaises et vous tous qui occupez des fonctions administratives, le message du FODIB s'adresse à vous pour vous demander de faire de votre mieux afin de mettre en place des mesures barrières plus appropriées pour aider nos compatriotes et ceux qui habitent dans notre chère patrie de lutter efficacement contre le coronavirus. Nous savons pertinemment qu'il y a beaucoup de Burundais qui sont conscients du danger du Covid et qui essaient de s'imposer un certain nombre de mesures pour ne pas être contaminés par le coronavirus. Mais nous savons également que le chemin reste encore long parce que les grands rassemblements sont toujours autorisés et encore graves. Ceux qui s'y rendent ne portent pas de masque et n'observent pas la distanciation sociale. Le FODIB vous remercie d'avoir accepté le vaccin sur le sol burundais, mais déplore en langage non responsable de certaines autorités burundaises qui semblent décourager les Burundais à aller se faire vacciner. Le FODIM vous demande de rectifier le tir et de sensibiliser la population burundaise à aller massivement se faire vacciner en montrant vous-même l'exemple. Le FODIM vous demande que l'admission du vaccin se fasse en toute transparence et que la priorité soit réservée aux plus nécessiteux, les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques et non aux plus nantis.
Pourquoi faut-il se faire vacciner ? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Dernier dossier de ce journal, ancien ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 3, Bujumbura-Lumongue. Les travaux de réhabilitation de ces routes ont débuté ce jeudi. Ces habitants interpellent le gouvernement à faire très attention pour que les travaux se déroulent comme convenu. Ils disent craindre la mauvaise gestion dans ce travail. Les détails avec Benny Axelakana.
Depuis mardi dernier, les engins de la société Sogeas Atom étaient garés au niveau de la rivière Dama à la jonction de la zone Kizuka et la zone Lumongue pour démarrer les travaux ce jeudi. Les travaux préliminaires consistent à terrasser en éliminant les nids de poules sur cette route pour que les étapes suivantes puissent avancer comme des agents de Sogeas Atom le précisent. Les usagers de cette route, impatients de ces travaux, ne cachent pas leur espoir quant à la reprise des activités commerciales. Les mêmes habitants sont inquiets. Ils demandent au gouvernement de surveiller les activités pour qu'il n'y ait de la fraude dans la construction de cette infrastructure publique, combien importante pour l'économie du pays.
Si nous nous référons aux exemples des infrastructures qui se sont écroulées après juste la fin des travaux, nous interpellons les autorités burundaises à être vigilantes. Veillez aux matériaux de construction, aux fonds destinés aux travaux pour éviter que cette route connaisse le même sort que certaines d'autres infrastructures publiques.
Normalement, Bujumbura et Lumongue sont distantes de 75 km, soit un voyage pour la plupart des voitures de moins d'une heure et demie. Depuis sa détérioration, les mêmes voitures mettaient plus de 4 heures de voyage.
Merci Benny Axelakana et c'est par ton reportage que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Un très bon week-end chez vous. Au revoir.